Ça va, Julien Acosta?
Ça va, Loïc Prigent. Et ça tous va. Les hardcore qui nous écoutent.
Bonjour, les hardcore. Au cœur de la mode, on débriefe les défilés dans la DS, dans un cocon de luxe hybride sans CO2. Ah là là, nous sortons de chez Louis V. Il est quelle heure? Il est quasiment 14h, alors que le défilé avait été annoncé à 11h30. Mais c'est un des défilés où nous, en tout cas, on doit absolument avoir l'interview de Jonathan Anderson. Et il se trouve qu'après le défilé, il est quand même assailli par une centaine de vedettes internationales. Et donc, on le laisse saluer ses invités et on fait l'interview juste après. Hier soir, c'est quitté avant SCAP, avant le défilé SCAP, qui avait lieu à l'ambassade d'Italie, avec un genre d'émeute devant. C'est-à-dire beaucoup de monde comme il peut y avoir avant les défilés. Je ne sais pas si les gens savaient que Kylie Jenner arrivait, qu'il y avait Kendall Jenner dans la pièce, qu'il y avait Rosalia. Mais du coup, ce genre de foule qui a ce genre d'excitation, mais rue de Varennes, qui est la rue de tous les ministères, donc une sécurité policière qui ne s'amuse pas du tout, qui était même très tendue, assez nerveuse et tout. Du coup, un espèce de, ouais, d'événement, rien que dans la rue, c'était un événement à l'extérieur. À l'intérieur, que des salons, donc c'est vraiment un monument classé, c'est dans tous les livres d'architecture, c'est un chef-d'œuvre absolu de boiserie 18e. On a de la chance de faire des défilés dans ce genre de lieu. Au premier rang, il y avait Ari Neff, à qui je peux dire bonjour Barbie. Il y avait Rosalia, Kylie Jenner, en majesté, dans une tenue en cristaux. Elle-même semblait alerter qu'il y avait un risque que les cristaux pètent, pour dire ça poliment.
Alors, Schiaparelli, comment c'était?
Alors, Schiaparelli, incroyable. Genre, alors, je suis sorti de... C'est ce que j'ai dit à Daniel Roseberry, le créateur de SCAP. Je lui ai dit, je suis sorti de Rick Owens, j'étais inépatable, mais inépatable, en anglais, ungaggable. Et je lui ai dit, mais là, vous m'avez épaté. C'est-à-dire, je lui ai dit, I was ungaggable, but you gagged me. Ouais, un peu obscène et tout, j'aime bien dire ce genre de truc au créateur à la fin du truc. Ils sont contents, écoute. Mais c'était vrai, j'y allais un peu, oh là là, c'était meute devant et tout, tu te dis, c'était épuisé avant d'arriver. Puis surtout, tu sors d'un Rick Owens très très intense. Et en fait, c'est tellement un kiff de mode, vraiment pur. C'est des dessins de mode qu'on voit, c'est des photos d'Helmut Newton. C'est vraiment cette espèce de mode assez irréaliste, complètement déconnecté de tout. Qui défile devant vous, c'est des. Je pense que lui-même, il se fait plaisir et il fait des rêves de mode de quand il avait entre 14 et 16 ans, quoi. Il se fait un délire. C'est comme si on regardait une table, une photo d'Irving Penn. Tu sais ces photos d'Irving Penn où il photographie du maquillage et il y a du vernis à ongles rouge qui a pété sur la table et donc littéralement il y a du vernis à ongles qui dégouline sur les vêtements. Donc on pourrait penser que c'est une tache de sang, mais on comprend tout de suite qu'il n'y a rien de violent là, c'est juste du glamour. Et les cheveux étaient comme des dessins, enfin vraiment très très étonnant, purement SCAP. Il y a une femme avec une robe très près du corps, avec une énorme sardine sur tout le corps, donc elle a un poisson. Plein de références comme ça à Schiaparelli, des crabes énormes, le fameux homard de Schiaparelli, qui est vraiment quelque chose de mythique dans l'histoire de la maison, qui date des années 30, fin 20, début 30. Et dernier passage, Kendall Jenner, dans une robe que en ongles, les faux ongles rouges. Des cheveux à la Verushka, c'est-à-dire des cheveux comme on voyait dans les magazines de la fin des années 60 aux États-Unis. Espèce de brushing de la mort de 2 mètres cubes, 8 bouteilles d'Elnette. Et alors le gag, c'est vraiment, c'est très très drôle. Kylie Jenner sort donc son téléphone pour filmer sa sœur Kendall Jenner qui défile. Mais Kendall était possédée par le démon de la mode. Elle était vraiment habitée. Tu vois, elle allait pas regarder sa sœur, elle allait pas sourire au téléphone, elle était pas cute. Elle était en mode Lisa avant sa griffe dans une photo d'Avdon. Rosella, qui était assise à côté de Kylie Jenner, a bien vu qu'il y a eu un snobisme assez violent de sœur à sœur, une sororité qui n'avait pas du tout eu lieu, et qui s'est bien moquée de, enfin, gentiment, c'est assez mignon, cette espèce de moment de, c'est ma sœur! Ah non, elle m'ignore.
J'adore les drames de premier rang, c'est vraiment les meilleurs. Il y a des drames de standing aussi, mais sauf qu'on connaît pas les gens. Donc.
Ouais, voilà. C'est exactement ça. Et non, c'était vraiment encore un fashion moment. Mais c'est ça qui est vraiment fou à Paris, c'est que vous pouvez avoir plusieurs fashion moments bout à bout, quoi. Et tu sors d'un univers très très dense et tu rentres dans un autre univers très très dense. Et il faut s'adapter, quoi. Et les gens qui font les soirées, ils ont vraiment raison parce que je pense qu'il y a des soirées vraiment extraordinaires qui ont lieu là tous les soirs, ces after-parties de maisons de mode, parce qu'il y a vraiment des guest lists improbables, quoi. C'est vraiment
ouais, mais c'est ça qui est
un âge d'or mondain à Paris, là.
Ouais, c'est ce qui est génial de faire la Fashion Week quand on fait plusieurs défilés par jour. C'est vraiment le clash des univers et d'en découvrir un nouveau à chaque défilé, quoi. Donc ouais, effectivement, à la fin de la journée, on a parlé à 300 personnes qui viennent de planètes différentes. Et donc ouais, on est très fatigués.
Mais c'est très drôle, c'est très très...
C'est génial.
C'est ça qui était pas mal au défilé Louévé. Donc défilé Louévé, c'était à Vincennes, dans le château de Vincennes. Émotion pour moi parce que mon grand-père maternel a fait son service militaire là-bas et il nous montrait toujours des photos de, en noir et blanc forcément, du château de Vincennes et des écuries et tout.
Donc c'est un lieu mythique pour toi.
Ouais, c'était trop bien. Émotion, j'ai pensé à mon grand-père Pierre. Ouais, et je parlais aujourd'hui, je crois que j'ai parlé à vraiment plein de gens et je vais découvrir... Je sais pas quand on va traiter les images, la vidéo de ce défilé, mais c'est dans plusieurs jours que je vais réaliser à qui j'ai parlé, parce que je me basais sur les looks. Je me disais, bon, si toi, tu as obtenu cette tenue-là du défilé précédent, c'est que tu dois être quelqu'un de relativement majeur dans ton cercle, soit dans l'art contemporain, dans le théâtre, dans le... voilà.
C'est les plus réactifs, l'EV, pour avoir les bonnes personnes... les bons talents à leur défilé. Et effectivement, c'est vrai qu'on connaît pas tout le monde parce qu'en fait, ils sont tellement réactifs qu'il y a des gens, ils sont en train de vivre le succès au moment même où ils sont invités au défilé.
Tout à fait.
Kid Connor, il est arrivé au moment où il surfait en plein succès de la série Heartstopper, la première saison chez l'OEV. Et là, je pense qu'il y avait encore, ouais, deux, trois personnes comme ça qu'on a rencontrées aujourd'hui.
Et une des grandes actrices de la série The Bear était là. Hyper mignonne, des gens qui ont des séries sur le câble américain, enfin c'est vraiment assez improbable. Donc j'ai parlé comme ça des gens, j'y allais au look. collection assez dingue encore. Bon, il joue sur les proportions. Ce qu'il commence par dire quand on lui parle, c'est j'étais encore sur la crête du défilé homme. J'en avais pas eu assez des idées du défilé homme. Du coup, je les réexploite ici. Et c'est le défilé homme a eu lieu il y a 2 mois, donc
En juin dernier, oui.
On voit vraiment des tenues très masculines, des choses qu'on a vues sur le défilé homme, notamment une idée quand même assez fantabuleuse, qui est le swatch de tissu, c'est-à-dire l'échantillon de tissu qui d'habitude est épinglé sur le croquis de la collection. Ben, cet échantillon de tissu, c'est-à-dire un bout de tissu carré découpé à la va-vite et épinglé, se retrouve disproportionné, donc de façon très grande. Là, ça devient des shorts, mais qui sont épinglés sur la fille, c'est-à-dire que c'est pas une ceinture, mais c'est une immense épingle qui fait quoi, 70 cm, qui est dorée, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Et il y a une robe qui pourrait être une robe de mariée. Enfin, faut se méfier parce que sur le côté, on voyait tout. C'était pas d'une décence ultime. Mais c'est juste un bout de tissu comme ça, geste quoi, sublime.
Ah ouais,
franchement sublime.
Il y avait pas mal d'idées qu'on retrouvait recyclées de la collection Homme de juin dernier. Il y avait aussi ces gros pulls en maille portés avec des pantalons très 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 taille haute, le plus taille haute possible. Il y avait aussi ces vestes qui deviennent en fait qui sont en fait c'est une veste sac, c'est-à-dire que la veste se transforme en sac, le sac est la continuité de la veste, donc c'est une seule pièce, c'est-à-dire que vous enfilez votre veste, vous avez le sac avec directement qui est attaché. Donc ouais, il y avait pas mal d'idées qu'on retrouvait, qu'on avait déjà vues en juin dernier, mais déclinées là sur le vestiaire féminin.
Une laine extrêmement épaisse, des boutons qui sont aussi exagérément grands. Bon, ce que tout le monde a remarqué, c'est la taille haute du pantalon, très très haut, c'est-à-dire là on arrive sous les seins carrément.
Ouais.
La chemise devient, c'est pas un crop top parce que tu sens qu'elle est quand même enfilée dans le pantalon, mais et c'était ses tenues préférées, c'était à Jonathan Anderson, c'était vraiment ce pantalon très haut avec une chemise entrée dans le pantalon très haut. Il dit c'est quelque chose que vous avez déjà vu, qui est très très familier, auquel vous faites plus attention et comment le re-rendre intéressant. J'ai l'impression que c'est ça son intérêt. Il y a des tenues qui sont des bustiers bijoux. Alors, assez similaire finalement, c'est le traitement d'une fleur très métallique en bustier qu'on a déjà vu chez Balmain par Olivier Roustin et qu'on retrouve là chez l'OEV. C'est rare qu'il y ait des points communs chez ces deux marques. Et alors, chez l'OEV, c'est l'inspi, c'est les bijoux photographiés sur fond noir dans les catalogues de vente aux enchères où on voit vraiment très très bien chaque pierre. Et donc, l'idée d'agrandir une broche à fond les ballons et de la transformer en bustier, quoi. Ce qui fait un effet très spectaculaire. Je me demande s'ils sont pas tous inspirés, parce que toutes ces marques ont travaillé avec Beyoncé pour sa tournée Renaissance. Et je me demande si on voit de l'argenté, et Beyoncé a demandé à beaucoup de tenues argentées, parce qu'elle commissionne vraiment les vêtements, elle s'est pas fait au pif. Donc je me demande s'il n'y a pas une grosse influence de Beyoncé, mais pas on a regardé les choses sur le mood board, mais Beyoncé nous a demandé des trucs qui nous ont influencés. C'est assez marrant. Alors, le scandale, c'est les chaussures. C'est-à-dire qu'on a été habitué à des chaussures méga drama chez Louévé, des
chaussures hyper visuelles,
des ballons, des chaussures en forme de fleurs, de d'œufs écrasés et tout ça. Et là, c'est une espèce de sandale hyper banale, à peine Louévéisée. Je pense que la matière doit être Louévé, mais c'est tout. Le défilé Louévé, c'est vraiment le défilé le plus scruté de l'industrie en ce moment. Je pense que toutes les maisons arrêtent de travailler à l'heure de Louévé, regardent. C'est très divertissant, vous pouvez le regarder sur YouTube, parce que Louévé diffuse aussi l'arrivée des stars. Donc t'as vraiment cette sensation d'une première hollywoodienne ou du générique de Champs-Élysées sur à la télévision française dans les années 80, présentée par Michel Drucker à l'époque, où on voyait Dalida sortir de sa voiture.
Ouais, ils le font très très bien, et Jonathan Anderson, il adore regarder ça backstage sur les écrans, le retour écran, il adore, il regarde tout. Donc sachez, ceux qui viennent au défilé, vous êtes regardés par Jonathan Anderson au moment où vous posez le pied devant le château de Vincennes.
Et est-ce qu'il regarde aussi l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur?
Oui, il regarde tout. Il y a quatre écrans, et donc dans les écrans, il y a les axes caméras, et il y a les caméras de l'extérieur. Voilà, ça aussi, vous le voyez sur Internet, ils le font très très bien, c'est monté.
Et ça reste toute la saison sur Internet, donc vous pouvez continuer de le regarder, c'est assez divertissant. Nous sortons donc de Balenciaga, des essayages Balenciaga. C'est toujours un moment assez spécial, hein, parce que c'est à La Hennec, qui est un ancien hôpital, qui est aujourd'hui le siège de Kering et le siège de Balenciaga. Ah, je suis allé aux toilettes, dis donc, les toilettes Balenciaga, c'est un espèce de marbre noir, c'est de l'onyx, je sais pas ce que c'est, parce que c'est un marbre mat noir. J'ai jamais vu des toilettes aussi chic de ma vie. Et j'étais aux toilettes chez Chanel.
Donc même les toilettes sont Balenciaga.
Ah oui, les toilettes sont Balenciaga. Tu te noies dans ce marbre noir. C'est vraiment, il y a pas de veines, il y a rien, c'est noir, ça t'avale.
Vous êtes au cœur de la mode.
Ah ouais, là, je
préviens.
C'est incroyable, ces toilettes Balenciaga aujourd'hui. Ce qui se passe chez Balenciaga, c'est que Demna est soit assis, soit sur un canapé, et dès que la mannequin est là ou le mannequin est là, il se lève, il est debout. Il est hyper attentif, il fait marcher un tout petit peu, et surtout, il prend une photo. Il arrange vraiment la position de la mannequin, il voit comment il se positionne lui, il prend la photo sur un téléphone, et cette photo sert ensuite pour la photographe qui fait le lookbook, qui sera distribué sur Internet et donné aux acheteurs et à la presse. Donc c'est vraiment assez étonnant, il a un sens très précis, très visuel de ce qu'il veut, de ce qui sera l'image officielle de chaque tenue. Nous sortons de Victoria Beckham et nous sommes rejoints par...
Natacha Maurice.
Bonjour. Notre productrice préférée.
Oui, d'ailleurs, Natacha, t'as pu prouver que le sol dans cet hôtel particulier était réellement glissant.
Oui, pour ceux qui ont suivi les épisodes d'Au cœur de la mode, si vous vous souvenez de l'épisode Marnie, où il s'est passé quelque chose de terrible pour une mannequin, c'est-à-dire qu'une mannequin est tombée par terre, mais encore plus terrible, elle est tombée par terre devant Anna.
Et sans dignité, parce qu'il y a pire, tu peux tomber devant Anna et rester digne. La meuf, elle est pas du tout restée digne. Elle a poussé un...
Voilà.
Et Anna a fait un fou rire pendant 5 minutes.
Oui, Anna, ça m'étonne pas d'Anna. Et donc, c'était au même lieu, au même endroit que Victoria Beckham. Marnie, Victoria Beckham. Je rentre dans l'hôtel particulier de la rue de l'Université pour Victoria Beckham.
En toute simplicité.
En toute simplicité, enfin un vendredi après-midi comme un autre. Et en effet, ça glisse. Alors, je ne suis pas tombée, mais je me suis dit que si ça glisse en étant à plat, sur 15 cm de stiletto, enfin de talon aiguille, c'est terrible. Enfin, franchement, moi, je comprends. Il y avait beaucoup de dames avec des très hauts talons. Moi, j'étais prête à en rattraper une à tout moment. Mais c'est pas arrivé, heureusement.
Donc là, pareil. Carlito qui joue des tours, parce que Carl, qui habitait 51 rue de l'Université, je pense qu'il est jaloux qu'il y ait du fashion fun dans les lieux sans lui, tu vois. Et énorme retard dû, alors vraiment, moi j'étais assis devant la famille Beckham, la famille royale d'Angleterre, donc ils étaient tous là avec Anna Wintour, tous assis très sagement et tout ça, en face de Pamela Anderson, qui était sublime, no make-up. Mais radieuse. Et on attendait, et on attendait, et on attendait, et on attendait, et on attendait. Natacha, tu faisais quoi pendant que nous on attendait?
J'essayais de survivre au violoncelle qui était en boucle.
Et on attend.
Et d'un coup, il y a plusieurs personnes qui se sont levées, qui ont commencé à courir vers la cour. Et là, on a compris qu'il y avait quelqu'un d'important qui arrivait. Et c'était
Et Julien aussi a été alerté. Et Julien, qu'est-ce que tu... toi, tu étais dans la cour?
Nous, on était dans la cour de l'hôtel particulier avec Clément Duché, l'ingénieur du son. Et en fait, on s'est dit que quelque chose de gros allait arriver parce qu'on a vu une grosse équipe télé. Et on s'est dit, ah, mais ça, c'est forcément une grosse célèbre. C'est pas du tout une petite célèbre.
C'est vrai que là, c'était une célèbre qui avait une vraie caméra, pas un iPhone et un ingé son, un vrai ingé son. Pas voilà, les. Ouais. Tu sais, il y a des célébrités suivies avec un iPhone et un tout petit micro, là.
Les équipes télé, ça se fait de plus en plus rare sur les défilés. Donc, quand on en voit, on peut deviner un peu qui c'est. Ouais. Et effectivement, notre instinct nous a donné raison puisque c'était en fait Kim Kardashian qui arrivait. Et on a eu l'arrivée de Kim Kardashian et Kris Jenner. Donc, ça, c'était un peu génial à filmer. La descente de la voiture et l'arrivée au défilé. Donc, petit privilège pour Kim Kardashian, elle a le droit de rentrer en fait dans la cour de l'immeuble. Personne d'autre n'a eu ce privilège sur ce défilé.
La rue a réagi comment à ce moment-là? La rue de l'université?
La rue ne l'a pas vue parce qu'en fait, le van rentre dans l'hôtel particulier.
Ah, okay.
Et Kim Kardashian et Kris Jenner descendent une fois à l'intérieur, donc à l'abri de la cohue et du chaos.
Kim Kardashian dans un look incroyable!
C'était une robe rose clair, c'était limite du lycra, non?
Une satinade.
Ah, moi, je dirais, ouais, voilà, un satin.
Sans doute stretch. Ouais. Mais surtout, saison 2 des Kardashians. C'est une robe de chez Dash, leur boutique à Los Angeles, non?
Non, c'était une Victoria Beckham, puisque à la fin du défilé.
Victoria Beckham?
Ouais, à la fin du défilé pour les greetings. À la fin du défilé pour les greetings, elle a été félicitée, Victoria Beckham.
Shade!
Oh, bah, ça va, mais non, c'est pas une shade. Dash, c'était bien, moi j'aimais bien Dash. C'était quelles années, les années Dash?
C'est 2010. Ouais.
2008, moi j'aurais dit.
Ah, moi j'aurais dit plutôt 2010, ouais.
2010. Non, mais c'est les années pré-Kanye, des années d'une forme d'insouciance californienne, très colorée, très voluptueuse, très. Voilà. C'est avant les décorateurs belges, quoi.
Avant le milliard.
Avant le milliard, oui, voilà. Et un maquillage très gloss, beaucoup de gloss. C'était glossé à mort. Et du coup, elle est arrivée. Alors, c'était assez drôle parce que c'est quand même la reine des États-Unis qui arrive devant la famille royale d'Angleterre et nous autres pouilleux. Et c'est assez drôle. Elle a esquissé une excuse à David Beckham, je crois. Et hop, elle s'est assise à côté de Anna Wintour. Et le défilé a commencé dans la seconde où elle s'est assise. Julien, t'étais où pendant le défilé?
J'étais backstage, et alors c'était un tout petit backstage. On a beau être dans un des plus grands hôtels particuliers de Paris, et on était dans une toute petite pièce. Les mannequins étaient toutes serrées dans une toute petite pièce. Donc, on est sorti un petit moment pendant le défilé pour avoir le retour des filles. C'était assez joli, puisque en fait, une partie du podium sortait sur le très très beau jardin à la française de l'hôtel particulier, et donc elle revenait, c'était assez beau. Et ensuite, on est re-rentré, et là, on a pu à la fin assister aux greetings avec toutes les célébrités qui viennent féliciter Victoria Beckham.
Et qui a sa propre bouteille de champagne.
Ouais, il y avait effectivement dans la pièce, ouais. On a vu une petite bouteille dans un seau et il y avait un monsieur à côté. C'était son rôle de protéger la bouteille. Il n'y en avait qu'une seule. C'était une Dom Pérignon 2003 et on lui a demandé si c'était effectivement le champagne de Victoria Beckham et c'était bien son champagne à elle. C'est assez chic d'avoir sa petite bouteille qui l'attend comme ça dans un coin.
C'était le champagne préféré de Karl Lagerfeld, donc c'est assez mignon.
Voilà, toujours l'esprit de Karl qui plane sur ce lieu. Les premiers à venir, bien sûr, et avoir le droit de rentrer, c'est bien sûr la famille princière, donc David Beckham et les enfants.
Tous les enfants.
Ils étaient tous au... Je crois qu'il manquait juste un des fils, mais ils étaient tous au complet avec la belle-fille.
La collection, alors, très marrant parce que, donc, collection inspirée par le parfum qui sort là. Il y a trois parfums qui sortent. Elle dit, j'ai mis 8 ans à les sortir. Tout l'hôtel particulier était complètement aspergé de ce parfum. Suite 301 ou suite 302, j'ai pas retenu, qui est apparemment la suite au cause où ils allaient quand ils commençaient à venir à Paris avec David Beckham. J'adore parce que j'ai des théories sur l'odeur du Coast, mais que je ne dis pas ici parce que voilà. Mais j'ai plein de théories. Si on se voit un jour en privé, je vous les dirai. Donc, c'est un hommage à l'odeur du Coast de quand on y allait dans les années 90 avec David Beckham, le parfum. Et du coup, elle nous raconte, c'est tout un storytelling sur moi-même, sur mon passé de danseuse. J'étais danseuse. Et du coup, ce qu'on a vu défiler, c'était danseuse. Et on va aussi, il y a plein de vestes, et ben c'est parce qu'elle va à la campagne avec David et faire des brocantes, et du coup elle met des petites vestes un peu tweedesque, et du coup voilà, et elle s'achète des cloths, donc du linge de table. Et qui était obsédé par le linge de table?
Karl Lagerfeld.
De fou. Karl Lagerfeld allait dans une boutique qui s'appelait Fripounette. Je sais pas si c'est à Ramatuelle ou à Biarritz, Fripounette. Je crois que c'est à Biarritz, et je vous jure que c'est vrai, il y avait une pièce secrète chez Chanel qui était remplie de sets de table, donc de, pas de torchons, mais de serviettes, tu vois, et de nappes et de draps de chez Fripounette. sublime avec des ajourés très très beaux et tout ça. Et ben paf, inspiration de ce défilé-ci. Ce qui fait que bon, ben Karl a finalement été sans doute content de ce défilé. Finalement. Là donc nous nous dirigeons vers l'IRCAM pour le défilé Copernic. L'IRCAM c'est quoi déjà ?
C'est l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique.
Bien, ça veut dire que le son va être bien. Je pense que Clément, l'ingénieur du son qui est avec nous, Clément, je pense que tu vas bien aimer cet endroit, non ?
J'y suis jamais allé. Je suis content. Il paraît qu'il y a une chambre anéchoïque, c'est la chambre où tu n'entends rien du tout et c'est hyper flippant apparemment.
J'y suis allé et c'est comme être dans l'espace.
Je ne suis pas sûr que ça soit là-dedans, mais si c'est possible d'y aller, je suis chaud.
Elle est toute petite cette salle, donc je pense pas qu'elle tienne le melon d'une rédactrice américaine, donc ce sera compliqué. Mais bon, on va sans doute voir des choses bien et tout. On se retrouve après le défilé Copernic. Qu'est-ce qu'on vient de vivre là ? Oh là là. On est sorti du défilé Copernic à l'IRCAM, donc à Beaubourg, en même temps que Léna, ma fou. Et là, c'est ma voix épuisée. C'est une émeute, quoi. Léna, quand elle sort dans la rue, là, à la sortie d'un défilé, c'est vraiment des cris de K-pop.
Et les sorties similaires comme ça que j'ai pu filmer après un défilé, c'était du niveau de Rihanna, Lady Gaga ou alors les Blackpink.
C'est fou.
Là, Léna, elle est arrivée à ce stade-là, ouais.
Les gens crient son nom, c'est un truc.
C'est très rigolo, quand même. C'était rigolo d'être à côté d'elle et de la voir sourire. Elle était autant amusée que nous. Amusée, effrayée, je sais pas.
ça l'a fait marrer, je crois.
Ouais, c'est plutôt rigolo de vivre un moment de rockstar comme ça.
Ah ouais, c'était rockstar. Incroyable, les gens qui crient. Nous sortons du défilé Copernic, qui était un défilé extrêmement réussi, j'ai trouvé. C'était dans une salle à 16 mètres sous le sol, dans l'IRCAM, avec des plafonds, les murs, tout qui bouge et tout ça. On était dans une enceinte géante, en fait, qui émettait du son, qui avait été produit spécialement pour le défilé. Certains des vêtements émettaient du son. Il y avait des nouveaux téléphones qui ne sont pas encore sortis, qui étaient greffés sur des vêtements.
Ouais, c'est un scoop, un énorme scoop. C'est un peu le prochain iPhone. Alors apparemment, ça a été inventé par quelqu'un qui a contribué au lancement de l'iPhone. Donc c'est quelque chose de similaire. Alors j'ai essayé de demander à tout le monde de m'expliquer comment ça fonctionnait. Alors c'est un petit boîtier qu'on pouvait trouver sur certaines des vestes qu'on active, donc ça peut recevoir des appels, c'est-à-dire le petit boîtier projette une image sur notre main, parce qu'en fait le créateur a voulu supprimer l'écran puisqu'il trouve qu'on passe trop de temps sur nos écrans, et donc ça projette en fait une image sur notre main, et là on peut voir par exemple si on a été appelé, et on peut décrocher comme ça. Donc c'est un peu le téléphone du futur, et c'était comme le lancement du prochain iPhone, quoi. C'était bien caché dans une malle bien sécurisée.
Il y avait parano en coulisses avec
Un peu parano, c'était caché dans une bonne malle, mais ce qui était drôle, c'est que les mannequins ne savaient pas du tout ce qu'ils portaient sur eux. Ils savaient pas ce qu'ils pensaient que c'était juste une petite caméra. Alors que non, je leur ai expliqué que ce n'était pas une caméra.
Un second cerveau, en fait, c'est ça.
C'est ça, c'est un peu le nouvel iPhone, quoi. Ouais, on était un peu dans ce truc-là.
Donc, innovation. Un autre scoop, c'était leur collaboration avec la marque Puma. Ils ont demandé à ne pas travailler, les deux garçons de Copernic, à travailler avec le service collab de Puma, mais avec le service innovation. Et ça se voyait assez, parce que ça faisait moins... on a collé deux logos l'un à côté de l'autre. Et on sentait qu'on était sur une matière hyper technique, et surtout une chaussure assez démente, avec une forme assez étrange, et une semelle inspirée des semelles de chaussures de foot.
Ouais, c'est ça, de crampons.
Mais sans les crampons. Assez étonnant, c'était graphique. Je pense que ça se remarquera dans la rue, et je pense que ça va affoler pas mal de monde, cette histoire. Pas mal de costumes pour hommes assez sages, des vêtements qui expriment la musique. Alors la musique est invisible, du coup, on fait des vêtements qui sont en partie invisibles, où il y a des poches qui sont au niveau des seins, et qui sont suspendues sur du rien. Et ils sont inspirés par les instruments avant, donc les trompettes. Et donc, il y avait, je riais, parce qu'il y a d'habitude, il y a le pantalon trompette, là il y avait un haut trompette, et donc c'est un haut qui était carrément en matière de, dans un laiton de trompette, quoi. Mais c'était très joli, ça faisait un effet très beau sur les jeunes filles. Ils ont d'ailleurs fini le défilé avec cet effet-là. Il y avait aussi des grandes robes avec des grands volumes inspirés, pareil, par des instruments avant. Assez dingue, franchement assez dingue. Et donc cette espèce de musique qui vraiment, alors moi j'étais dans la salle, la musique elle est de gauche à droite, de droite à gauche, il y avait des effets surround Dolby mais fois 1000, quoi.
Ouais, il y avait même certains mannequins qui avaient des vêtements dans lesquels on avait incrusté un système son. D'ailleurs le tout premier vêtement, c'est une veste portée par la mannequin australienne Ella McCutcheon, et donc on lui a demandé qu'est-ce qu'elle portait, et donc c'est une veste avec deux enceintes qu'on trouve au niveau de la poitrine, comme des poches supérieures, et alors ça projetait la musique du défilé, donc il y avait vraiment cette expérience de musique 360, et elle nous disait que ça vibrait, en fait, elle sentait la musique vibrer, les basses vibrer quand elle portait la veste.
Trop bien.
Ouais, ouais, ça devait être un effet pas mal du tout. Ouais. Et il y avait aussi un top pour hommes sans manches avec, pareil, deux enceintes et aussi des triangles intégrés. Il y avait des découpes sur des hauts qui étaient en forme de triangle. En fait, quand on s'approchait, c'était littéralement des triangles.
L'instrument de musique, le triangle.
Exactement.
Qui les intéressait parce que c'est, apparemment, c'est celui qui fait le plus de musique dans un orchestre. C'est ce qu'ils nous ont expliqué. Exactement. Nous avons eu le droit à une explication de texte. C'est un peu mon truc préféré chez Copernic. C'est avant le défilé, quand on a accès à Arnaud et Sébastien, les deux créateurs de Copernic, et qui expliquent les idées qu'ils ont eues et qu'on se demande à quelle heure ils ont eu ces idées-là, parce qu'il y en a plein. Et c'est vraiment un des bords de défilé, c'est un des chemins de fer de défilé où il y a le plus d'idées par silhouette et tout ça, et c'est super intéressant à écouter. Et voilà, je crois que la salle était assez captivée. Hein. Il s'est passé un truc. Depuis qu'ils ont fait ce défilé avec Bella Hadid, qui se fait projeter cette matière qui devenait une robe, ils avaient quand même un enjeu à refasciner la salle avec un truc aussi fort que ça, et c'est pas évident, je pense. C'est même plutôt une malédiction d'avoir à refaire un effet méga waouh qui capte l'attention mondiale et qui crée un moment viral comme ça qui prend tous les réseaux sociaux comme une tornade. Et là, je pense qu'ils ont quand même réussi quelque chose de sans doute plus subtil que le moment méga viral de Bella Hadid, mais quand même quelque chose de très très réussi. Et ce qui était très beau, c'était les filles qui allaient très vite, et c'est souvent kitsch une fille qui va trop vite sur un défilé, mais là c'était le bon speed dans le couloir trop long de Châtelet ou de Montparnasse. C'était vraiment bien. Et le scoop, quand même, le truc qui n'arrive plus jamais, qui n'est pas arrivé depuis 1991 à Paris, parce que faut savoir que vous voyez souvent Naomi Campbell sur les défilés, mais à chaque fois Naomi ouvre rarement mais ferme. C'est-à-dire que Naomi, c'est ses contrats, ses agents négocient par principe que Naomi va fermer le défilé et que ce sera, parce que c'est censé être le moment le plus prestigieux, le vêtement le plus apothéosesque de la collection. Et donc Naomi ferme les défilés depuis pas mal d'années. Et là, non, Naomi débarque en troisième. J'ai halluciné. Franchement, c'était drôle. Évidemment, elle a quand même ouvert le final. C'est-à-dire qu'elle était la première du final. Faut pas déconner non plus. Mais c'est vrai qu'il y a un effet Naomi quand elle débarque. Hein. Tous les téléphones se lèvent.
Ouais, c'est assez malin de la mettre en troisième finalement, parce que ça crée encore plus la surprise. On s'attend pas du tout à voir Naomi Campbell, j'imagine, dans la salle.
Pas du tout.
Troisième. Donc ça doit être déroutant et justement, voilà. Ça doit encore plus réveiller, je pense, la salle à ce moment-là.
Exactement. Ça crée un effet comme ça. Christian Dior appelait ça les coups de Gibraltar. Tu sors une robe rouge au moment où on s'attend pas, où on s'attend à un tailleur gris. Et paf, et les gens se reconcentrent. Ce qui est pas mal pour un défilé qui est à 20h30 le vendredi et que les gens ont pas mal de choses très belles dans les papates. Bisous Jou ! Merci Julien Dacosta !
Merci Loïc Prigent, merci d'avoir écouté tous les hardcore.
On vous retrouve demain pour plus d'aventures. Un défilé demain, on a un défilé Hermès, ça va être trop beau. Et avant, il y a le premier défilé carbone de Louis Trotter. Bisous Jou ! On débriefe les défilés dans la DS, au cœur de la mode, saison 2. N'oubliez pas de laisser plein de pouces et d'étoiles et de commentaires cool et tout ça.
Partagez sur Instagram.
Voilà, et merci à Najim Moubarek qui monte tout ça. Et Clément Duché qui enregistre tout ça. Bisous.